Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Laurent Hénard, président du Parti Radical, ancien ministre et ancien maire de Nancy. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Laurent Hénard, vous avez annoncé votre soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Le président de la République sortant n'est pas encore candidat, mais sa candidature n'est plus vraiment un mystère. Vous êtes globalement satisfait de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Ce qu'on regarde au Parti Radical, avant tout, c'est l'avenir. Dans le quinquennat, Emmanuel Macron a montré que, face à la crise, notamment la crise sanitaire, ses conséquences économiques et sociales, voilà, il savait diriger le pays par mauvais temps, par, je dirais même, en temps de tempête. Et donc, pour le quinquennat à venir, c'est une qualité majeure, parce qu'on sait bien que la crise sanitaire n'est hélas pas terminée, on le voit avec cette cinquième vague, cette remontée de l'épidémie, et derrière la crise sanitaire, les problèmes d'emploi, de pouvoir d'achat, de dynamisme économique de notre pays vont rester. Donc, d'abord et avant tout, on a un chef d'État qui a la capacité à traverser les crises et à conduire le pays à travers les crises. Et puis, il y a deux autres choses qui motivent le choix en faveur d'Emmanuel Macron. C'est, d'une part, le fait que les options qu'il défend aujourd'hui, qu'il a défendues pendant le quinquennat, sont des options qui conviennent aux radicaux. L'idée d'avoir, bien sûr, une économie dynamique, mais de la justice sociale. L'idée de construire une Europe politique forte, qui est pour nous un élément fondamental. L'idée aussi que l'éducation était prioritaire. Beaucoup de choses ont été faites depuis 5 ans. Je pense au dédoublement des classes de CP et de CE1, par exemple. Beaucoup de choses ont été faites pour l'école de la République. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il a bougé dans le bon sens. C'est le cas sur la laïcité, avec la loi de lutte contre les séparatismes. Et on l'a vu lors de son discours pour l'Association des maires de France. Sur les collectivités locales, on sent que, après la crise des Gilets jaunes, après la crise de la Covid-19, il est conscient que la France a besoin d'être décentralisée. Donc, les orientations qu'Emmanuel Macron, en tant que président, en tout cas aujourd'hui, porte, pour beaucoup conviennent aux radicaux. Et puis, la dernière raison, c'est que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui veut dépasser le clivage droite-gauche, qui veut dépasser les vieilles frontières partisanes. Et ça a toujours été, pour le Parti Radical, une priorité que de savoir ne pas être prisonnier, en fait, des habitudes, des rivalités, des vieilles guerres entre partis, et de savoir aller chercher des idées neuves.
Selon vous, quels doivent être les thèmes de la campagne électorale à venir ? Est-ce qu'il faut notamment qu'on tire toutes les conséquences de la crise sanitaire qui a révélé des failles dans la société française, dans notre économie également ?
Alors oui, il y a un sujet qui vient tout de suite à l'esprit à tout le monde, je pense, hein. C'est le besoin d'avoir une réflexion stratégique sur l'économie, une réflexion sur l'indépendance de la France et de la vie des Français par notre économie. Hein, on voit bien très clairement le temps qu'on a pris pour produire des masques qui venaient tous de Chine au début de la crise. On voit bien la difficulté qu'on a à produire un vaccin français avec Pasteur et Sanofi. Bref, il y a des sujets de faiblesse économique nationale qui sont arrivés, sur lesquels d'ailleurs le président de la République, notamment avec son programme Horizon 2030, a déjà tracé des perspectives fortes. Mais il faut qu'on investisse dans des secteurs économiques, pas tous azimuts, pas n'importe comment, c'est pas de l'arrosage, mais il faut qu'on cible des secteurs stratégiques autour de l'énergie, autour de la santé, autour aussi des données environnementales, l'eau, la qualité de l'air, les transports propres, le logement décarboné. Il faut qu'on puisse avoir sur ces questions-là des vraies filières nationales qui, en plus, bien sûr, rencontrent une politique européenne industrielle. Ça, c'est pour moi la première priorité. Puis il y en a une seconde, c'est qu'on réussisse le plein emploi. Le chômage baisse et c'est tant mieux, mais la France a trop longtemps été avec un chômage élevé, 10, 11 ou 12%. Ça crée derrière de la pauvreté, ça met des gens pendant des années dans le RSA et dans les revenus minimums. Il faut qu'on réussisse à amener le plein emploi dans le pays. C'est ce qui donnera à chacun sa chance et c'est ce qui permettra vraiment d'augmenter les salaires et d'augmenter le pouvoir d'achat. On voit bien les pays qui sont au plein emploi, c'est les pays où les salaires ont augmenté. Voilà. À partir du moment où les chômeurs ne sont plus là, les salariés évidemment sont mieux payés, c'est une évidence. Donc c'est la deuxième grande, à mon avis, priorité des années qui viennent pour le pays.
Alors la France va présider l'Union européenne à partir du 1er janvier. Le président Macron, s'il est réélu, sera en charge de cette présidence jusqu'au premier tour et puis ensuite il continuera jusqu'à la fin juin. Qu'est-ce que vous attendez de cette présidence française ?
Je pense que Emmanuel Macron a clairement dit que pour lui, l'Europe devait être à la fois un glaive et un bouclier, si je puis dire. C'est-à-dire, sur des sujets où la mondialisation malmène les pays européens, leur niveau de vie élevé, leur modèle de civilisation aussi. Nous sommes des démocraties, nous sommes attachés à de la solidarité sociale, nous sommes attachés à la culture, au patrimoine, au partage éducatif. Donc je pense qu'il faut que sur ces sujets-là, l'Europe monte d'un cran, si je puis dire. Alors, on a quoi ? On a concrètement tous les sujets issus de la COP26, comment l'Europe progresse encore sur l'exemplarité écologique, ce qui implique aussi d'avoir une Europe qui défend l'industrie, qui défend l'innovation industrielle, qui soutient, y compris des pays comme la France, quand ils décident de reprendre une souveraineté économique. Et puis, autre sujet, évidemment, on le voit bien, c'est le sujet de la maîtrise de l'immigration. On voit combien une pagaille migratoire profite finalement aux partis les plus populistes et les plus extrémistes. On a aujourd'hui Éric Zemmour qui fait irruption grâce à ça, Marine Le Pen qui garde un score dangereusement élevé grâce à ça. Il faut que l'Europe montre qu'avec les États qui le veulent, et peut-être que c'est l'occasion de revoir complètement la politique européenne en matière migratoire, elle est capable sur ces sujets-là à la fois de garantir le droit d'asile et donc d'être humaniste, mais aussi de maîtriser les flux migratoires et de faire en sorte que l'Europe accueille les personnes à qui elle peut fournir un travail et une vie digne. C'est clairement le deuxième sujet. Puis il y a un dernier sujet qui, à mon avis, est un enjeu important aussi pour l'Europe. C'est quand même, à un moment donné, de s'imposer un peu plus sur la scène mondiale. Voyez bien les difficultés qu'on peut avoir, Pologne, Biélorussie, Russie. Vous voyez bien le dialogue entre, parfois la confrontation entre les États-Unis et la Chine, qui se font finalement par-dessus la tête de l'Europe. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi que dans ce monde où il y a des géants qui sont en train de naître ou de s'installer, l'Europe soit autour de la table des grandes puissances.
Le sujet de l'immigration que vous venez d'évoquer a donné lieu à plusieurs propositions des candidats LR à la présidence de la République. Prenons la proposition d'un moratoire sur l'immigration défendue par Michel Barnier. Est-ce que cela vous paraît compatible avec les valeurs de la République ?
Si le moratoire sur l'immigration, c'est l'interdiction du droit d'asile ou le fait de le faire quasiment disparaître, c'est l'incapacité de nos universités à accueillir des étudiants étrangers et de faire rayonner aussi le système éducatif français, non, le moratoire n'est pas raisonnable. En revanche, si le moratoire il est sur ce qu'on appelle l'immigration économique, c'est-à-dire des personnes qui veulent venir travailler en France alors que nous avons encore beaucoup de chômeurs, ou sur éventuellement des conditions de regroupement familial, là je pense qu'effectivement ça se discute au moins le temps que le système européen change. Parce que, et ça le président de la République l'a évoqué, le système Dublin, qui fait porter la charge du suivi en fait des nouveaux immigrés aux pays par lesquels ils entrent, notamment tout le travail des visas et de la régulation. C'est un système qui en fait demande beaucoup à des pays parfois fragiles. L'exemple c'est la Grèce, à peine sortie d'une crise économique, un millier d'îles à surveiller. Enfin, donc à un moment donné, on voit bien que la politique migratoire de Dublin, des accords de Dublin, elle a vécu. Et il faut peut-être, évidemment, pendant le temps de construction d'une nouvelle politique européenne entre les États qui le veulent, que la France réduise de manière forte son flux migratoire entrant.
Laurent Hénard, la laïcité est dans l'ADN du parti radical que vous présidez. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi séparatisme. Emmanuel Macron, vous semble-t-il celui qui défend le mieux la laïcité parmi tous les candidats à l'élection présidentielle ?
Alors je trouve que le président de la République sur la laïcité a beaucoup bougé et c'est bien. Ah, c'était un sujet, rappelez-vous, le début du quinquennat, sur lequel finalement il s'exprimait peu. Souvenez-vous, la presse parlait même régulièrement d'un discours qui devait venir du président de la République sur la laïcité, qui permette de fonder sa position et sa réflexion sur le sujet. Donc ça voulait bien dire que de ce point de vue-là, il y avait un manque. Il y a eu des expressions fortes sur la laïcité, il y a eu la loi sur le renforcement des principes républicains, qu'on appelait la loi contre les séparatismes. Ça a été pour les radicaux une étape majeure. Il ne s'agit pas seulement de parler de la laïcité, il faut aussi donner les outils pour la défendre. Voilà. Ce principe, il est menacé par des extrémistes, par des intégristes, par quelques-uns seulement, hein, mais qui font peur à tout le monde. Et de l'autre côté, on a des grands principes qui peuvent paraître consensuels ou en tout cas largement partagés, mais qui ne sont pas assez défendus. Donc des sujets comme la charte de la laïcité, par exemple, signée par les associations qui reçoivent de l'argent public. C'est un sujet fondamental dans la loi, ça doit devenir une réalité sur le terrain. Et comme maire de Nancy, je me suis battu sur ce type d'option. Et parfois, croyez-moi, il faut vraiment se battre. Parce qu'il y a aussi des élus, notamment à gauche, je pense à la France Insoumise, qui sont des élus communautaristes. Deuxièmement, il y a tout le travail qui est fait pour démanteler des lieux de culte qui sont des lieux de culte en fait intégristes, où le prêche ou la doctrine va contre les lois de la République, et c'est normal de reprendre ces situations en main et de pouvoir les dissoudre. Il y a les moyens qu'on doit donner à notre police, à ces services spécialisés sur la lutte contre le terrorisme, qui a besoin de s'inscrire maintenant dans la durée. Il faut pendant plusieurs années que chaque année il y ait les moyens nécessaires. Donc moi je trouve que voilà, l'évolution du président elle a été dans le bon sens, les moyens débloqués dans le cadre de la loi sur les séparatismes, plutôt contre les séparatismes, sont indispensables et ça va dans le bon sens. Il faut qu'au prochain quinquennat on puisse inscrire ça dans la durée. La laïcité, c'est la meilleure protection de la liberté de conscience de chacun.
Laurent Hénard, l'ancienne ministre Ramayad, qui a été, je crois, adhérente du Parti radical il y a quelques années, a défendu dans l'Express les thèses du wokisme. Elle affirme, par exemple, que voir la statue de Colbert constitue pour elle une micro-agression. Cette question de la cancel culture, elle est anecdotique ou bien il faut la prendre au sérieux?
Pour moi, il faut la prendre au sérieux. Quand on en arrive à vouloir revoir toute l'histoire de France avec les seules lunettes du XXIe siècle, c'est la preuve d'un profond malaise. Voilà. Je veux dire, Colbert, évidemment que c'est l'époque où la monarchie française laissait faire le code noir, hein, qui était un code qui réglementait l'esclavage. Mais enfin, Colbert n'a pas fait que ça, quand même. Il y a eu, on parlait tout à l'heure d'industrie, de manufacture, de savoir-faire. Colbert a développé tout cela. Colbert a essayé d'unifier le royaume avec un service de l'État qui soit un service public efficace. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, évidemment, dans cette époque-là. Et je trouve qu'à un moment donné, vouloir abattre des statues, débaptiser des rues, je veux dire, on peut pas complètement déraciner la France et en faire un pays dont toute l'histoire se résumerait à la pensée d'aujourd'hui. Vous voyez parce que c'est dangereux ça. Aujourd'hui, on veut revisiter l'histoire sur de bonnes intentions. Mais je rappelle qu'il y a des partis extrémistes, que ceux-ci peuvent accéder au pouvoir, et que si ils leur prenaient l'idée de refaire l'histoire à leur tour, avec leurs valeurs à eux du moment, ce serait une très mauvaise chose. Et toutes les dictatures, en fait, ont fait ça. Quand vous regardez le nazisme, le stalinisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait du révisionnisme. Ils ont tous essayé de réécrire l'histoire. Et je pense que expliquer que à l'époque de Colbert, il y avait un commerce triangulaire, et il y avait une pratique de l'esclavage, il y avait un code noir qu'il instituait, et que c'est quelque chose évidemment d'horrible qu'il faut condamner, et qu'encore heureux, au XIXe siècle, dans le sillage des Lumières, il y a eu de grandes figures comme Schœlcher, qui ont participé à l'abolition de l'esclavage, oui. Expliquer qu'à cause de ça, dans une époque où, hélas, ce monde était organisé comme ça, Colbert doit être renié et doit disparaître, c'est compliqué, parce que ça veut dire que c'est quasiment toute l'histoire de France qu'on va faire disparaître à ce rythme-là. Donc moi, je trouve que, je comprends la position de Ramayad, maintenant vieux aux États-Unis, elle est peut-être marquée par des débats américains, et encore une fois, les États-Unis, c'est un pays très communautariste, hein. En France, on a d'une autre tradition, voilà, tradition de la République. Et je pense que la République, par son école, est capable d'enseigner l'histoire, les faits, les époques, et d'enseigner un jugement sur l'histoire. Vous voyez, juger l'histoire, expliquer que le pire s'est produit et peut se reproduire, qu'il faut être vigilant, qu'il faut être un humaniste combatif, oui. Parce que on combat et on refuse des choses qui se sont passées il y a 300, 400, 500, 600 ans. Aller effacer des rues, des statues, des places et des pages de l'histoire de France, je pense que c'est dangereux.
Laurent Hénard, vous présidez le plus vieux parti de France. Le Parti radical tiendra son congrès les 10 et 11 décembre. Vous souhaitez que l'ensemble des cadres de votre parti approuve ce soutien à Emmanuel Macron? Vous envisagez par ailleurs des accords électoraux avec la majorité présidentielle?
Alors évidemment que je souhaite que la position de soutien au président de la République, qu'en fait je ne fais qu'avancer. Je souhaite qu'elle soit bien sûr approuvée par le Parti radical. Le Parti radical, c'est un parti démocratique. On a toujours eu des votes en congrès pour les grands choix des élections nationales. On l'avait fait pour les européennes de 2019, il y a eu un vote du congrès. Pour sceller l'accord avec les autres formations du centre dans la liste Renaissance, et bien sûr, il y aura un vote démocratique du congrès radical les 10 et 11 décembre prochains pour éventuellement confirmer ou pas la position que je propose de soutien au président de la République. Cette position, évidemment, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est l'occasion aussi pour les radicaux de réaffirmer leurs idées à eux. C'est le manifeste radical que nous allons adopter pendant ce même congrès. C'est l'occasion pour les radicaux aussi de participer à un pacte majoritaire clair. C'est important que derrière le choix d'un président de la République, il y ait une plateforme de gouvernement et il y ait des candidatures législatives coordonnées. Mais ça ne se fera pas au prix, et j'en terminerai par là, de l'indépendance radicale. Le Parti radical, il a 120 ans. C'est le plus ancien parti politique français. Son histoire se confond avec l'histoire de la République. Et le Parti radical, il a traversé trois républiques, la troisième, la quatrième et la cinquième qui est en cours. Il n'a jamais été dissous. Voilà. Donc le Parti radical restera le Parti radical. Nous voulons même avoir un groupe radical à l'Assemblée nationale pour mieux faire entendre notre voix.
Le Parti radical, aujourd'hui, représente combien de membres, combien d'élus locaux?
Alors, le Parti radical, c'est aujourd'hui 10 000 militants, avec un millier d'élus locaux. C'est d'ailleurs, je trouve, ce qui est de plus caractéristique, en fait, du parti, c'est que c'est un parti qui est ancré sur le terrain, avec beaucoup de conseillers municipaux, d'adjoints, d'élus dans les communautés de communes ou communautés d'agglomération, donc beaucoup d'élus locaux communaux, des conseillers départementaux, régionaux et des maires aussi. Mais quand je vous dis qu'il y a un millier d'élus locaux sur nos 10 000 adhérents, ça veut bien dire que c'est un parti enraciné dans les collectivités locales et dans les terroirs et dans les territoires.
Merci Laurent Hénard. Je rappelle que vous êtes président du Parti radical, ancien ministre et ancien maire de Nancy. Bonsoir.
Merci, au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.